Compte complet extra est présenté par Baseball Québec, la fédération du sport officiel de l'été. Avec votre équipe à l'animation, Alain Husereau et Marc Griffin.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
Les Aigles de Trois-Rivières vont amorcer leur saison très bientôt dans la Ligue Frontier, alors que le camp d'entraînement est en cours. Entretien avec le directeur général, René Martin. Merci d'être avec nous, René Martin, c'est le grand Manitou des Aigles de Trois-Rivières. On va commencer par parler de la saison qui s'en vient, la saison 2025. Un petit rappel, l'année passée, fiche de 44-51. Vous avez raté des séries, vous avez joué près de 500. On va commencer par ce qu'il y a de plus gros. Vous avez changé de gérant. Matthew Rush était votre gérant. Il était là depuis quand même quelques années, et la décision s'est prise peu après la dernière saison. C'est quoi qui a motivé le départ de Matt Rush?
Ben dans le fond, c'était sa troisième saison, puis Matt, mm-hmm. C'était plus qu'un entraîneur pour nous, c'était un ami, il a joué pour les Aigles, c'est une légende à Trois-Rivières. Puis après la deuxième mm-hmm. saison, on n'était pas tellement content des résultats, puis on avait discuté avec Matthew, puis il nous avait dit, regarde bien, là, ça marche, ça passe ou ça casse cette année. Ici, c'est pas une pression qu'on lui a mis, c'est lui-même qui est un grand compétiteur mm-hmm. qui avait dit « il faut que ça marche ». On a commencé l'année, on avait sérieusement, selon nous, une équipe d'étoiles. Jusqu'au match des étoiles à Québec, on était on va dire comme Martin Saint-Louis, dans le mix, où ce que tout allait bien. Puis on a libéré un ou deux joueurs après le match des étoiles. Puis pour la deuxième année consécutive, on joue presque tout le mois d'août à Trois-Rivières et tout s'est écroulé. Les gars, tout le monde frappait pour 325 à partir du mois d'août. Toutes les moyennes de tout le monde ont baissé. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de la saison, quand j'ai demandé à Matt qu'on se rencontre pour le post-mortem de la saison, ensemble, on a convenu qu'il était temps là, de passer à autre chose. Puis c'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à la recherche. Ça a pris tout le mois. Puis on est vraiment content d'avoir trouvé notre nouveau gérant, là, Jonathan Albanaggio.
Bon, parlez-moi de justement, il est venu sous la recommandation de quelqu'un, ça s'est fait comment cette embauche?
Bien, il y a différentes choses, c'est justement, ça a commencé, puis on ne cherchait pas un entraîneur à ce moment-là, mais au match des étoiles, tous les clubs de la Ligue étaient là, puis moi, ça m'avait fasciné, jusqu'au match des étoiles, on était un des meilleurs clubs de frappeurs de la Ligue, à part une fin de semaine, on avait été joué à Lake Erie. Puis, on avait perdu les trois matchs. Je pense que nos lanceurs avaient donné 5 points. Puis dans cette ligue-là, 5 points en trois matchs. J'exagère là, tout le temps dans mes histoires, mm-hmm. mais puis, je pense que nous autres, on en avait fait 2, alors qu'on était un des meilleurs clubs de frappeurs de la Ligue. Fait que ces lanceurs-là m'avaient fasciné. Puis, j'avais demandé au match des étoiles qui est l'entraîneur des lanceurs de Lake Erie. Puis là, on m'avait nommé Jonathan. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quand la saison s'est terminée, ben, je voyais, tu regardes les entraîneurs qui reviennent ou qui reviennent pas dans la Ligue. La première chose qu'on a faite, le pas de cachette, on a regardé pour un Québécois. Parce que nous, ça aurait été important pour nous d'avoir un Québécois. Mais des Patrick Scalabrini, il en pleut pas à tous les coins ouais. de rue. Tu sais, des Alex Agostino, tout ce monde, il y a plein de bonnes têtes de baseball. Mark Griffin, plein de bonnes têtes de baseball au Québec, mais ils viendraient pas coacher. Ils sont pas là dans leur moment, dans leur carrière pour venir coacher un club de la Frontière Ligue à Trois-Rivières. Fait que après ça, ben là, on a regardé pour aux États-Unis ou dans d'autres ligues. Puis c'est tout de suite la première affaire qu'on a passée. Puis on est entré en communication avec Jonathan. J'avais demandé au commissaire de la Ligue si on peut discuter avec lui. Il n'y avait pas de problème. Ouais. Puis dès les premières rencontres, lui, il a joué quand même 3 ans avec les Yankees. Il a joué dans le baseball majeur. Puis ce qu'on aimait, c'est que nous, à Trois-Rivières, c'est un petit marché. Une fois que les gars viennent ici, ils aiment ça. Mais ils connaissent pas Trois-Rivières la première fois qu'ils entendent le nom. Mm-hmm. C'est pas comme les Capitals qui sont comme les Yankees du baseball indépendant. Le monde savent mm-hmm. qu'est-ce qui se passe à Québec. Fait que nous, faut vraiment se faire une grande séduction. Et souvent, les meilleurs joueurs qu'on est capable d'avoir, c'est des joueurs hispaniques, tu sais, qui viennent de la République, de Porto ouais. Rico, puis tout ça. Fait qu'on trouvait que c'était le fun d'avoir un entraîneur qui habite en Floride, à Tampa Bay, mais qui est natif de Porto Rico. Fait qu'il parle très bien anglais, très bien espagnol. Fait qu'il y avait tout ce qu'on voulait comme, comme exigence. Puis il est rapidement venu à Trois-Rivières. Puis dès qu'on l'a rencontré, on a vu, là, c'est un gars qui est vraiment dédié. Puis je vous le dis, là, M. Giroux, la différence est impressionnante. Tu sais, quand tu as un entraîneur québécois, Pat, il se promène à Québec, Scalabrini va faire des repêchages et tout ça. Mais mettons, nous autres, Jonathan, tout l'hiver, il a fait des camps de baseball en Floride. Il est allé à Porto Rico. Fait qu'il a vu des joueurs partout. Fait que c'est sûr que nous, c'est un enjeu qu'on avait avec Matt, qui c'est un gars qui est très dédié, qui est un très bon joueur, qui c'est un bon entraîneur, mais ça prend beaucoup de contacts pour amener des joueurs. Puis c'est ça le plus gros enjeu. Et nous autres, on trouvait que lui, bien, il pourrait avoir beaucoup de contacts. Fait que c'est vraiment pour ça que notre choix s'est arrêté sur Jonathan.
Bon, ceci étant établi, on va parler de ce qu'il y a sur le terrain. Vous êtes en plein camp d'entraînement, ça commence dans 2 semaines déjà.
Ouais.
Par la suite, vous commencez sur la route en espérant que le printemps soit arrivé pour de bon quand vous allez jouer votre premier match. Là.
Ouais.
C'est un peu frisquet, même à travers le baseball majeur, on voit, j'ai regardé le match à Boston, puis ça soufflait encore de la boucane dans le... chez les joueurs. Je veux qu'on s'attarde sur les Québécois que vous allez avoir cette année. Ouais. Vous avez annoncé le retour de LP Pelletier, Louis-Philippe qui va revenir.
Ouais.
Jason Therrien va revenir. Parlez-nous de ces deux-là qui font partie là, des piliers de votre formation. C'est important pour vous de les ramener.
Très important pour nous parce que c'est deux, ça peut être deux très, très bons leaders. LP Pelletier, c'est un frappeur. Là, je veux dire, partout ce qu'il a joué dans sa vie, il a toujours frappé. Il est allé dans United League là, à Dubaï là, il y a 2 semaines. Puis il y a 2 semaines, mais 2 semaines de temps, il a super bien frappé. Depuis qu'il est avec nous ou quand on a joué avec l'équipe Québec, il a frappé pour 300. Il frappe des circuits, il vole des buts. C'est un Québécois, c'est un gars que les fans adorent. Nous, ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est que sur les médias sociaux, c'est un influenceur. Fait que c'est sûr que LP, dès qu'il porte quelque chose des aigles, dès qu'il fait une publication, ses aigles, c'est exceptionnel pour nous. Puis il est très, très bon auprès des jeunes parce que nous, on est très impliqués dans la communauté avec le baseball mineur. Puis LP Pelletier, bien, tout le monde, c'est comme un genre d'idole pour beaucoup de jeunes, puis il est très, très impliqué, il nous donne un bon coup de main là-dedans. Puis la même chose avec Jason Therrien. Jason Therrien, c'est un gars qui est plus, je dirais, low profile que LP, mais c'est un professionnel incroyable, c'est un gars que il est vraiment dédié à la tâche. C'est le fun de voir, il vient au stade, ses enfants viennent au stade. C'est les aigles, c'est une grande famille, on aime ça que les joueurs, quand c'est possible, qui ont des familles, qui s'assoient autour du club, parce que c'était dans le temps, Pierre-Luc Laforêt, notre premier coach, c'est lui qui avait instauré ça. Ses enfants couraient partout sur le terrain. C'est une belle grande famille. Puis Jason Therrien, c'est un leader, je dirais peut-être plus silencieux. Et le gars, il a joué dans les majeurs. C'est vraiment quelqu'un que ça s'est réglé la semaine passée. On était vraiment contents parce que, oui, c'est un Québécois, mais c'est un des bons joueurs de la Ligue. Les deux, tu sais, c'est pas juste des Québécois, là. C'est des gars qui dominent dans la Ligue.
Oui. On va parler de Jason parce qu'il a joué avec les Phillies en 2017, opération au coude. Il y a eu des complications, ça s'est pas passé. L'opération Tommy John ou au coude, là, peu importe de quelle nature, là, il n'y a pas de certitude. Ça a été difficile à sa première année quand il revenait avec vous en 2023. L'année passée, c'est clair, il a mené l'équipe pour les retraits sur des prises, il y a eu une progression. Est-ce qu'on s'attend que cette progression-là poursuive? Parce qu'on dit toujours que ça prend un an minimum avant de se refaire une confiance pour lancer. Est-ce que vous attendez à ce que Jason soit le chef de file au Monticule cette année ou si les attentes sont plus modérées?
Assurément, c'est un très bon point. Moi, je connais le Tommy John, j'en entends parler. Mais pour avoir parlé avec Jason, vu que ça n'a pas marché le premier coup, mais à partir du deuxième coup, vu que ça a fonctionné, Jason, il doit avoir 31, 32 ans.
Ouais.
Et son bras a presque pas été utilisé dans les 4-5 dernières années. Fait que c'est comme un bras neuf, là. Fait que, tu sais, Jason, ce qu'on s'attend, c'est que l'année passée, plus l'année avançait, en passant, il y a des statistiques impressionnantes l'an passé, mais il pourrait être encore plus impressionnant que ça. Là, nous, on joue sur une surface gazonnée. Si c'était une surface synthétique, comme la plupart des endroits de la Ligue, c'est plus facile pour la défensive et pour les lanceurs également. Fait que Jason, là, vraiment, moi, je m'attends cette année à ce qu'il continue sa progression parce que la première année, c'est ça qui est arrivé. C'est qu'il lançait fort, mais il recommençait à lancer. Fait qu'il n'avait pas le contrôle nécessairement qu'il voulait. Mais l'an passé, il avait repris son contrôle. Vraiment, il a été dominant. Puis il y a eu des bonnes statistiques, mais selon moi, puis selon ce que lui pense également, c'est, mettons, il n'a pas vraiment été toujours appuyé par l'attaque, pas toujours appuyé par la défensive pour différentes raisons. Sa saison, au niveau statistique, elle aurait été encore plus impressionnante. Fait qu'assurément, on a des grosses attentes pour lui cette année.
Oui. J'aimerais qu'on parle de Mathieu Vallée. Oui. C'est un gars qui a été dans la NCAA, a connu une très, très bonne dernière année. Southern Illinois s'est retrouvé chez vous, puis ça n'a pas arrêté.
Non, il est vraiment impressionnant.
Ça n'a pas arrêté. Et là, vous le ramenez cette année pour une saison complète. Ouais. Je ne sais pas comment ça se passe dans le camp d'entraînement. Mais est-ce que c'est un gars à qui vous alliez donner des responsabilités à la lumière de ce qu'il a fait? Moyen de 341 l'année passée, c'est à peu près ce qu'il a fait dans la NCAA.
Dans le fond, notre camp d'entraînement commence officiellement en fin de semaine, le samedi.
Oui.
Mais on a été impressionnés par ce qu'il a fait à la fin de l'année, par sa vitesse, par son jeu dans le champ extérieur. Il nous a surpris au bâton. Parce que des fois, les gars, quand ils arrivent tu sais, là, c'est une fin de saison, quand ils arrivent des rangs universitaires, il y a un ajustement quand même à faire parce que, surtout quand il arrive au mois d'août, dans la Ligue, c'est qu'il y a des clubs qui sont très compétitifs puis ils se renforcissent pour le sprint final. Puis c'est à ce moment-là qu'il est arrivé puis il a eu une super bonne moyenne. Fait que c'est pour ça qu'on a beaucoup d'espoir. Puis les Québécois comme lui, Raphaël Gladue, il y en a à Québec aussi, Sirois, tous ces gars-là, ils sont très bons. Mais plus ça avance en expérience dans la Ligue, plus ça améliore. Fait que c'est un peu ce qu'on pense qui va arriver avec Vallée. C'est un gars, un autre Québécois, puis je vous annonce qu'il n'est pas dans l'équipe parce que c'est un Québécois. Il serait dans l'équipe, peu importe d'où ce qu'il viendrait. Mais on est vraiment content que ce soit un Québécois parce qu'on est fiers que... Puis en passant, il y a lui, mais on regarde aussi, là, on souhaite qu'il y a plusieurs Québécois actuellement qui sont sur notre radar, qu'on prie pour eux qu'ils soient repêchés dans le baseball majeur, au repêchage en juin. Mais parce qu'il y en a 6 ou 7 qu'on a ciblés qui terminent leur rang universitaire. Fait que là, ben c'est nous autres ou les capitales. Puis, tu sais, c'est correct que les capitales en aient, mais on aime ça, nous autres aussi, avoir ces Québécois-là. Parce que, tu sais, la Ligue junior élite du Québec, c'est une bonne ligue. C'est correct pour le développement. Mais le fait qu'ils jouent 40 à 42 matchs, c'est difficile de passer au niveau professionnel. Nous autres, c'est près de 100 matchs. Physiquement, c'est difficile. Fait que c'est pour ça que les gars qui sortent des collèges américains, ils ont joué au baseball à l'année, on dirait que ces Québécois-là, ils ont une meilleure endurance pour subir une saison là, du baseball professionnel.
Parmi les joueurs que vous avez acquis, il y a plusieurs Québécois, vous en avez au camp d'entraînement, vous avez annoncé l'arrivée de Nathan André avec vous, Raphaël Gladue ne sera pas de retour, ça c'est pour des raisons professionnelles, c'est ce qui a été annoncé à tout le moins. Est-ce qu'il y a d'autres Québécois qui pourraient surprendre là, à qui vous allez donner une chance?
Ben, là, on a invité comme lanceur Charles Lefebvre, c'est un gars qui lançait senior. Puis nous autres, ce qu'on espère, c'est qu'il soit capable de lancer là-dedans. Selon tout le monde qui nous ont parlé, on a eu des très bonnes références. Puis ce qui est le fun d'avoir des Québécois dans l'équipe, exemple LP Pelletier, c'est que j'y parle hier, puis les Québécois, ils sont à Montréal, d'un centre intérieur, puis ils font des confrontations, mettons, avec les lanceurs québécois, avec Terrien, avec des frappeurs québécois. Fait que nous autres, les gars savent c'est quoi, là. Tu sais, quand il appelle, puis il dit que, d'après ce qu'il a vu de Charles Lefebvre, il a vu de la Ligue, il est capable. Tu sais, je veux pas l'oublier, là, mais, tu sais, on va regarder aussi ce qui arrive, c'est que dans la Ligue, il y a des règlements qui sont très stricts dans la Ligue frontière. Puis qu'on a un nombre maximum de joueurs qu'on peut avoir au camp. Fait que ce qui arrive souvent, c'est que les Québécois, qui arrivent avec les aigles, souvent, là, ou avec les capitales, ils arrivent pas nécessairement au début de l'année puis dans le camp d'entraînement. Ils arrivent en cours d'année, puis un peu comme Vallée, puis ils se rajoutent après. Fait que c'est pour ça que je vous parlais des 6 Québécois, là, actuellement à 10. Mais tu sais, que Charles Lefebvre, Vallée, Terrien, Pelletier, ça serait pour nous une bonne base de partir avec les Québécois. Ça regarde comme ça jusqu'à maintenant.
Vous avez annoncé plusieurs nouveaux venus. Certains ont un CV qui est quand même impressionnant. Grâce à votre gérant, entre autres, vous avez mentionné là, les contacts qu'il a réussi à établir. Il y a quelques latinos parmi vos nouvelles acquisitions. Vos attentes cette année, globalement, est-ce que vous parliez de l'année passée, vos attentes étaient élevées? Est-ce qu'on demeure à ce niveau-là?
Je vais répondre en politicien en deux temps. Actuellement, l'équipe qu'on a, nos deux entraîneurs sont arrivés à Trois-Rivières cette fin de semaine. eux autres, ils étaient à Lake Erie l'an passé, puis ils ont fait les séries. Puis eux autres, ils me disent que l'équipe sur papier qu'ils ont montée actuellement est supérieure à ce qu'il y avait là-bas. Là, il y a les enjeux de blessures, puis tout ça. Puis moi, l'autre chose aussi, c'est que ce qu'il faut toujours donner, c'est que Matt, il a eu 3 ans pour essayer de faire quelque chose de très bien. Je veux pas mettre non plus trop de pression sur Jonathan, qui est à sa première année comme entraîneur-chef. Alors, dans la Ligue frontière, dans le baseball indépendant, là, tout le monde a une chance de faire les séries à toutes les années. Fait que notre but, oui, c'est de les faire, mais honnêtement, je suis quand même réaliste que c'est la première année aussi de Jonathan. Fait que c'est sûr qu'il y a des ajustements à faire en cours de route, voir comment il va réagir par rapport à ça. Si tu as des blessés au début de l'année, j'ai confiance. Il a fait beaucoup de contacts durant l'hiver parce qu'il a tellement fait de camp. Ça me rappelle T.J. Stanton qui a coaché avec nous. C'était dans ses techniques. Mettons, lui, ce qui arrivait, c'est qu'il avait 30 quelques gars au camp. Et il y avait une liste de plusieurs joueurs que si jamais un joueur se blesse, ben il remplace ce joueur-là. Et il sait déjà qu'il va l'appeler parce que ce gars-là est à telle université, ça va finir à telle date. Fait que j'ai l'impression que Jonathan, selon ce que j'entends de lui puis que j'ai parlé avec lui, ça m'inspire confiance. Parce que les bad luck dans le baseball indépendant, là, les gars vont arriver en fin de semaine de la République dominicaine, de la Californie puis de la Floride. Ils vont commencer un camp d'entraînement, puis ils vont jouer un match à 6 degrés, exemple contre les Capitales ou Ottawa. Historiquement, ça arrive souvent que nos gars se blessent une cuisse à ce moment-là. Tu sais, il y a toujours de quoi qui arrive dans ces débuts d'année, côté météo, que puis c'est pas juste les aigles, c'est partout dans la ligue. Le fait qu'il y ait beaucoup de contacts, c'est sûr que ça me rassure beaucoup. Et oui, on vise des séries éliminatoires comme à chaque année, mais en même temps, je suis conscient que c'est la première année de Jonathan, fait que il a quand même le droit à des erreurs de première année. Là, c'est sûr qu'on va être compréhensif à ce niveau-là.
On va parler de la réalité du deuxième étage et de tout ce qui entoure l'organisation d'une équipe comme Trois-Rivières. La réalité est différente de Québec. Vous l'avez mentionné, Québec, c'est pas une ville qui est difficile à vendre. Probablement que dans le baseball indépendant, il n'y a rien qui approche.
Non.
Probablement, je vous dirais... Le pouvoir de séduction la ville de Québec. Il y a personne qui s'approche de ça. Mais Trois-Rivières, quand même, quand on regarde l'ensemble des villes, pour avoir déjà été à Trois-Rivières, là, peut se comparer favorablement, je dirais, à la plupart des villes qui sont là-bas. Il y a des choses à faire à Trois-Rivières. C'est une ville qui est plaisante et vous avez beaucoup à offrir. Ceci étant dit, il faut la vendre, cette ville-là. De ce côté-là, vous vous y prenez de quelle façon? Est-ce que vous avez des vendeurs par des anciens joueurs? Comment vous vous y prenez exactement pour tenter de vendre la ville?
C'est exactement, là, tu as touché la façon. C'est que les premières années, c'était pas évident. Mais là, à un moment donné, c'est la 12e, 13e année. Ben, c'est sûr qu'on a plein d'ambassadeurs partout dans le monde qui disent que la première fois qu'ils sont venus ici, ils n'étaient pas trop sûrs parce qu'ils ne savaient pas trop c'était quoi. C'est où Trois-Rivières? Ben, c'est la ville qui est à 1h30 de Québec. Mais là, de plus en plus, c'est plus facile de faire venir les joueurs. On n'est pas encore au même niveau qu'on s'entend dans le baseball indépendant. Il y a beaucoup d'équipes aux alentours de Chicago puis de New York. Mais tu sais, les gars, des fois, quand ils arrivent à 29, 30 ans avec leur famille, ils aiment ça jouer près de leur lieu de résidence principale. Fait que c'est plus facile pour ces marchés-là. Mais pour la Ligue frontière, c'est ça qu'on aime de cette ligue-là, c'est qu'il y a beaucoup de gars à chaque année qui remontent dans l'affilié parce que c'est une ligue où il y a beaucoup de recrues, il y a des jeunes joueurs. Et dans ce fait-là, Trois-Rivières, ce qu'on a fait depuis 3 ans, j'avais Jérôme Duchesneau, puis avant, j'ai eu Simon Laliberté comme directeur général. Ce qu'on a fait, c'est que on voulait s'assurer que quand les gars viennent, ce soit une carte de visite. Fait que, mettons, les résidences que les gars restent, c'est neuf. Il y a des maisons, il y a des condos. On reste à la même place que les Lions de Trois-Rivières de la ECHL. Fait qu'on se partage ça, on est là l'hiver, on est là l'été. Là, on a tout un enjeu qui s'en vient actuellement parce que c'est le meilleur club, la ECHL. Fait que là, nos gars vont être à l'hôtel au début, on passe la route. Mais le fait d'avoir des résidences où ce que les gars restent confortables, proches du stade, on offre une salle d'entraînement, là, on a des partenaires incroyables parce qu'on a une salle d'entraînement près du stade où ce que les deux équipes peuvent aller. On a un centre-ville durant l'été qui est vraiment très, très endiablé et animé. Une fois que le gars il est venu une fois à Trois-Rivières, historiquement, ils veulent toujours revenir. L'année d'après, c'est jamais arrivé qu'un gars soit capable de le ramener une deuxième année parce qu'il n'a pas aimé son expérience. Okay. Fait que nous, c'est comme ça. C'est vraiment par le service familial de proximité qu'on offre aux joueurs, que petit à petit, on se fait connaître. Puis comme je vous dis, tu sais, les résidences, ça, c'est neuf. Là. Ça, c'est vraiment une grosse différence. Jonathan, le gars de Lake Erie, ce qu'il me racontait, c'est que eux autres, c'est près de Cleveland, c'est un plus gros marché.
Ouais.
Et tous les joueurs restaient d'une famille d'accueil. Fait que c'est sûr que quand tu vas à Trois-Rivières ou à Québec aussi, où que les gars sont super bien hébergés durant l'été, ben c'est quelque chose qui fait une différence. Parce qu'un gars de... Je comprends qu'un gars de 20 ans, ça ne dérange pas d'être d'une famille d'accueil, mais un gars de 28 ans qui a deux enfants, c'est une histoire plus compliquée. Fait que c'est pour ça que nous, on a mis de l'emphase là-dessus. Et puis là, bon, ce qui nous resterait à faire, là, la vraie chose qu'il faudrait améliorer pour être encore une meilleure carte de visite, c'est que sur notre terrain, ça va prendre une surface synthétique comme à Québec, parce que plusieurs joueurs nous le mentionnent. T'sais, le gars qui veut remonter dans le baseball affilié a besoin de bonnes statistiques, a besoin d'être dominant dans la Ligue frontière. Puis honnêtement, pour un joueur en défensive dans l'avant-champ ou un lanceur par le fait même, c'est sûr que Trois-Rivières, il y a plus de points qui se marquent ailleurs parce que c'est du gazon naturel. Puis avec les hivers qu'on a, il reste trois terrains dans la ligue avec du gazon naturel.
Ah oui.
Que c'est pour ça que c'est dans les projets là, qu'on regarde à court, moyen terme pour avoir ça. Parce que le reste, on n'est pas gêné du tout. Tu sais, les gars vont arriver, ils arrivent vendredi ici. On a une activité de prévue parce que LP Pelletier va inviter tous les gars chez un de nos partenaires pour voir le Canadien jouer. Mais les gars vont faire le saut, mettons, 25 mm de pluie, puis 5-6 degrés samedi. Ils vont se dire, tu sais, tu comprends, c'est, le début, c'est toujours comme ça. Ouais. Mais quand le mois de juin arrive, les gars adorent notre centre-ville, adorent la vie à Trois-Rivières, c'est tranquille. C'est tranquille, puis c'est en diablant en même temps. Ils ont comme une sécurité qu'ils n'ont pas dans d'autres villes.
Ouais.
Fait qu'on est vraiment une belle terre d'accueil pour les joueurs de baseball professionnel.
Bon, ça, c'est maintenant l'aspect de vente de la ville. Ce que ça prend aussi, on l'a mentionné plus tôt, des contacts.
Oui.
Là, ça passe par le gérant, selon ce que vous m'aviez mentionné tantôt, mais est-ce que vous êtes capable d'avoir quelqu'un, ça peut être un Québécois, quelqu'un de Trois-Rivières, qui dont le travail est justement d'établir des contacts. Et là, quand on parle d'établir des contacts, c'est avec, évidemment, les universités américaines, avec le réseau des équipes indépendantes, quelqu'un qui est... Vous n'avez pas autrement dit à être dépendant du gérant que vous allez embaucher pour établir ces contacts-là. Est-ce que ça, c'est un travail que vous avez été capable de faire au fil des années?
Oui, depuis deux ans, l'année passée, on avait engagé Oswe Pelé, qui a joué dans la Ligue, qui a été quand même traducteur avec les Blue Jays. Depuis l'an passé, c'est un gars de Trois-Rivières, le Jean-Félix Proulx. Il a joué dans un collège américain. Puis, il y a toujours un bon contact avec nos entraîneurs. C'est un gars qui il a des contacts dans les collèges américains. Puis, il y a, mettons, les gars avec qui il a joué, il y en a beaucoup qui ont joué, par exemple, dans la filiale des Pirates. C'est lui, on l'utilise beaucoup actuellement parce que j'adore la question parce que les partisans comprennent pas tout le temps la réalité qu'un président puis un directeur général de notre franchise du baseball indépendant, c'est pas comme, mettons, Ken Hughes. Puis, mettons, Gordon à Montréal avec le Canadien. L'aspect baseball, oui, on s'en intéresse, mais nous, c'est plus l'aspect business, l'aspect développer des événements à Trois-Rivières. Fait que c'est important d'avoir des gars comme Jean-Félix Proulx, comme Josué Pelé. Nous-mêmes, souvent, c'est arrivé, quand on a engagé Matthew Rush, l'année passée, je me souviens plus pour quel dossier, Éric Gagné a été des actionnaires à Trois-Rivières. Il y a quand même encore des contacts dans le baseball. C'est quelque chose que j'avais écrit, j'avais posé des questions. Tu sais, on se renseigne, j'ai déjà posé des questions à Alex Agostino. Tu sais, on a plusieurs Québécois qui savent comment ça se passe à la planète de baseball. Mais c'est quelque chose, là, Jean-Félix Proulx nous donne un bon coup de main, mais c'est quelque chose qu'on devrait améliorer ou être préparé en conséquence, c'est sûr, parce que moi, mettons, je parcourrais pas le monde pour trouver des joueurs. Ma job, c'est vraiment de m'occuper, on s'occupe ici de tout le baseball mineurs en même temps. Fait qu'on est vraiment comme c'est comme un club de soccer en Europe. Là. C'est une structure qu'on a faite avec les aigles, avec des clubs plus jeunes jusqu'à plus vieux. Fait que c'est sûr que c'est un bon point que tu amènes, parce que oui, Jean-Félix Proulx le fait. Mais comme même chose, les capitaines en passant, c'est Pelé lui donne un coup de main, mais ouais. C'est Pascal Abrini qui se promène partout et qui fait tout ça. Fait que, mais c'est un Québécois. Fait que c'est plus rassurant pour l'organisation des capitales. Nous, on est bien tombés parce que Jonathan a bien fait ça, mais il n'y a pas de cachette que quand que je l'ai engagé, à un moment donné, au mois de novembre, je me questionnais. Je me dis, mettons que ce gars-là, il a joué dans les majeurs, il tient-tu tant que ça à coacher? Mettons qu'il décide qu'au mois de mars, ça ne tente plus de coacher. Je fais quoi? Moi, tu sais, c'est faut que le recrutement soit fait. C'est pour ça que toutes les fois qu'on repêchait quelqu'un, recrutait quelqu'un, signait quelqu'un, ben Jean-Félix Proulx nous donne un bon coup de main parce que il faisait aller ses contacts et il disait « Ouais, ça fait plein de sens. Oui, lui, il a fait telle affaire. » Fait qu'on était capable de se vérifier quand même d'une certaine façon.
Ben, je donne un exemple fictif, là, mais que je donne un exemple parce qu'il y a moins de rondes au baseball majeur, il y a moins d'équipes affiliées, donc on comprend que ça se peut qu'il y ait plus de joueurs disponibles, même si on ajoute des équipes, on en ajoute encore cette année d'ailleurs dans la Ligue Frontier, mais le bassin de joueurs disponibles risque d'être plus grand. Je donne un exemple, mettons, il y a un joueur pour une raison quelconque, soit parce qu'il n'y a pas la grandeur voulue, un voltigeur de East Carolina qui n'est pas repêché, mais son entraîneur là-bas l'aime, puis le jeune veut continuer de jouer. Son entraîneur à East Carolina, s'il connaît quelqu'un chez vous, ça se peut que vous receviez un coup de téléphone. C'est le genre de contact qu'il faut absolument établir là, pour une équipe indépendante, pour être capable de soutenir, si on veut, la source de joueurs dont on a besoin.
On n'a pas le choix, puis c'est un très bon exemple. Mais nous, c'est là qu'on pense que Jonathan va faire la plus grosse différence, parce que justement, pour tous ces gars-là, il y a eu des camps tout l'hiver. Parce que, juste que vous sachiez aussi, là, c'est une ligue qui est moins connue, là, mais Jonathan, son adjoint s'appelle Jerry Gonzalez et l'autre adjoint, c'est Eddie Gonzalez. Les trois ensemble, c'est les propriétaires de la Empire League. C'est une ligue de baseball qu'il y a des, à chaque année, là, il y a des, peut-être une dizaine de joueurs qui montent dans le baseball indépendant après. C'est une ligue dans le nord des États-Unis. Fait que eux autres, ils font toutes sortes de camps pour remplir cette ligue-là. Fait que c'est pour ça que le gars que tu parles justement de East Carolina, ben c'est sûr qu'à quelque part, il y a des chances de croiser Gonzalez ou Albenajo à quelque part parce qu'ils font tous les camps durant l'hiver. Puis c'est ça qu'on n'avait pas avant. Aussi, une autre chose importante, c'est que nous, à cette heure, pour avoir nos visas, là, avoir des permis quand on fait rentrer un gars de la République et tout ça, on fait affaire avec Dominique Therrien, qui a joué dans 2A dans la filiale. C'est un gars de Trois-Rivières. Il habite en Floride. Il reste à une rue de Jonathan. Puis dans le fond, c'est lui, c'est un avocat international qui donne, il nous aide à avoir les permis de travail pour amener les gars. Mais lui, il a encore plein de contacts dans le baseball. Fait que ça arrive des fois que, comme quand je cherchais un entraîneur, j'avais demandé à Dominique, j'ai dit, vois-tu quelqu'un que tu as connu dans l'affilié ou quoi que ce soit? Tu sais, même si ça fait quelques années qu'il ne joue plus, ces gars-là gardent toujours des contacts. Fait que notre réseau s'agrandit année après année.
Oui. Mathieu Vallée, par exemple, si vous pouvez nous raconter un petit peu comment il s'est retrouvé, parce que lui, il est arrivé directement de NCAA, je crois, avec Southern Illinois. Je viens de connaître une très bonne saison, MPP au-dessus de 900. Moyenne, en fait, ironiquement, sa moyenne au bâton a été exactement la même à sa dernière année avant de parvenir chez vous, 3,41, ce qui est excellent. Donc, racontez-nous un petit peu, juste pour...
Tous les Québécois, là, comme ça, là, mettons Mathieu Vallée, là, nous, j'ai un directeur général adjoint qui s'appelle Marc-Antoine Lefebvre. C'est un gars qui a joué junior élite. Il a joué dans le collège américain, puis il joue actuellement pour le Brock là, dans la Ligue senior à Drummondville. Fait que lui, mettons, il a 25-26 ans, fait qu'il connaît à peu près tous les Québécois... puis on a aussi, nous autres, on s'occupe de notre club junior, où ce qu'on avait un DG là, qui s'appelle Mike Lachance, qui il nous sortait à la fin de chaque saison la liste des jeunes juniors qui jouent dans un collège américain qui pourraient nous intéresser éventuellement. Fait que dans le cas de Maton Vallée, c'est Marc-Antoine Lefebvre qui nous avait dit à un moment donné, ce gars-là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Puis à un moment donné, on a eu un blessé, il est venu, puis il était très bon. C'est comme ça que ça se passe. Tu sais, juste un exemple, le directeur général du Royal de Repentigny, Marc-André Ronda, il coach les Patriotes comme adjoint au hockey l'hiver ici. Il m'écrit hier voir si tel ou tel Québécois va être invité à notre camp. Fait qu'on n'invite pas toujours, parce que vu qu'on a un homme maximum, mais les gars qui nous parlent, c'est un gars que, mettons, on rappellerait Marc-André. Disait, Marc-André, il n'est pas invité au camp, mais mettons, une fois que la saison part, nous, ce qu'on a réussi à faire, là, qu'on a amélioré dans la dernière année, c'est que jusqu'en 2022, à toutes les fois qu'on avait un blessé, mettons, le mardi, c'est des séries de 6 matchs, OK? Mm-hmm. Le mardi, on a un gars qui se blesse. Là, notre coach, il reste au stade jusqu'à 2h du matin. Il regarde des gars releasés partout dans le baseball. Puis, il fait venir un gars que personne ne voulait, de la Californie. Ça nous coûte 500$. Le gars, il est pourri. On le release le lundi d'après. À un moment donné, on a dit à nos coachs, « Hey, les boys, c'est possible de regarder dans la Ligue senior des gars qui ont joué universitaire? Mm-hmm. » Ils pourraient, tiens, prendre un Québécois pour une semaine. T'sais, l'année passée, meilleur exemple, Michel Dagenais. Michel Dagenais joue avec le Brock à Drummondville. Une fin de semaine, on a un catcher qui se blesse, il vient. Je pense qu'il a frappé pour 500 pendant la fin de semaine. Il n'aurait pas frappé 500 toute l'année. Mais tu sais, ces trois matchs-là, les Québécois, des fois, c'est le même qu'on les rentre. Puis après ça, ben, ceux qui veulent continuer, ils restent. D'autres retournent au senior. Mais en gros, c'est comme ça que ça se passe avec nous.
Vous m'avez devancé, M. Marfoot, parce que je voulais justement parler de la Ligue senior qui a pris de l'ampleur au fil des dernières années. Il y en a beaucoup là-dedans qui ont joué chez des pros ou encore dans le réseau universitaire américain. C'est un autre réseau qui prend de l'ampleur pour les mêmes raisons que j'ai énoncées tantôt, c'est que le baseball majeur veut passer davantage pour les joueurs américains par la NCAA. Donc, le calibre augmente dans la Ligue senior du Québec. Et est-ce que c'est un... Bon, vous venez de me donner un exemple, mais c'est un marché qui peut sembler de plus en plus intéressant. Le calibre n'est pas le même. Là. On s'entend, on joue la fin de semaine là, dans l'Ligue senior. On ne joue pas 100 matchs par été. Là. Mais est-ce qu'on garde un œil attentif sur ce qui se passe là-bas?
Assurément. Dans cette ligue-là? Parce que, comme je vous disais, Marc-Antoine Lefebvre, qui est mon directeur général adjoint, il joue avec le Brock à Drummondville. On a également Jérôme Duchesneau, qui était directeur général avec les Aigles l'an passé. Là, c'est un peu un conseiller spécial. Il travaille pour les Aigles et les Capitales. Lui, il joue à Thetford. Ces gars-là voient des joueurs tout l'été. Ils voient 100 matchs. Mettons, on joue 48 matchs à Trois-Rivières. Ils voient tous les matchs pro à Trois-Rivières. Ils sont très capables de savoir qu'un tel gars qui est fort dans leur ligue est capable de donner un coup de main. Fait que c'est nos meilleures références parce que eux autres, moi, je leur permettais d'aller jouer le match la fin de semaine. Puis moi, j'aime ça. Cette ligue-là, effectivement, ça s'améliore. Tu sais, notre ancien coach, Matthew Rush, là, il s'entraîne là, parce qu'il va jouer avec les Cascades de Shawinigan dans cette ligue-là cette année avec Raphaël Gladue. Puis juste vous donner un autre exemple, il y a un gars qui était supposé jouer dans cette ligue-là qui jouait à New York l'an passé. Il s'appelle David Vinsky. On l'a signé la semaine passée.
Ouais.
C'est Raphaël Gladue qui m'a écrit qui me dit, René, le coach de New York va probablement vouloir faire un échange avec toi parce que Vinsky veut rester dans le coin. Le gars, il était au match des Étoiles l'an passé. Fait que comprenez que les contacts qu'on a avec la Ligue senior sont très bonnes parce que il y a beaucoup de joueurs de la Ligue senior que si ils retombaient un peu plus jeunes et qu'ils n'avaient pas commencé le vrai travail pour la vie, ils seraient capables de jouer avec les Aigles ou les Capitales.
Ouais.
C'est des très bons joueurs de balle, mais c'est que là, à un moment donné, eux autres, ils ont une famille ou ils veulent travailler à l'ABI, ils travailleront pas pour la vie à jouer dans le baseball indépendant.
Oui. Vous avez un marché particulier, Québec et Trois-Rivières. Ouais. Et là, je m'aventure un petit peu. Est-ce que vous avez un territoire protégé? Est-ce que la Ligue vous permet, parce qu'il y a des restrictions quant aux joueurs que vous avez, selon leur expérience, leur âge, etc. Ils sont classifiés et, vous ne pouvez pas, par exemple, avoir plus que tant de vétérans. Là, il y a des droits acquis également. Mais justement, parlant de droits acquis, est-ce que les Québécois bénéficient d'un statut particulier dans la Ligue pour les équipes de Trois-Rivières et Québec? Est-ce que ça a déjà été envisagé de demander une exemption à cet égard-là?
Mais non, il n'y en a pas. Puis des fois, c'est peut-être parce que souvent, au début, c'était plate parce que les premières années qu'on était là, quand on est arrivé dans la Ligue, là, les Capitales, il y avait, il y avait encore Malo, Pelé. Tous les bons Québécois étaient là. Là, il y a encore des très bons Québécois, mais on en a nous aussi. Mais il n'y a pas de règlement pour vrai dans la Ligue. Là, que, je serais prêt à en faire un règlement que tous les gars de Montréal, dans le fond, Québec pointe les gars de Québec à Gaspé. Je serais prêt à faire ce règlement-là, mais je suis sûr que Pascal Labrini ne voudrait pas le faire.
Ben non, c'est sûr.
Parce que, mais non, c'est sûr. Fait que c'est premier arrivé, puis premier servi, puis le gars qui réussit, selon le statut, qui est capable de rentrer le Québécois. Tu sais, nous autres, le meilleur exemple, c'est qu'on avait rentré David Laude à Trois-Rivières. David Laude avait été exceptionnel, puis il n'avait pas joué avec les Capitales. Il a été exceptionnel avec nous, mais à un moment donné, quand il approchait de 27-28 ans, je pense qu'il était marié, il avait une femme, il avait une maison là-bas. Ben là, il a demandé à notre coach TJ Stanton si c'était possible qu'il puisse aller jouer à Québec parce que l'été, il voulait rester chez eux. Tu sais, c'est le genre de choses qu'on on a accommodé à ce moment-là, même si ça nous brisait le cœur, parce que David, c'était un des cœurs de notre équipe, tellement qu'il était bon. Mais tu sais, ça, c'est des choses qui arrivent, mais tu sais, mettons, un Québécois, c'est pour ça que l'exemple de Vallée est bonne. C'est que les Capitales auraient probablement été très intéressés à Vallée aussi, mais les Capitales, au mois d'août l'année passée, ils étaient dans un sprint final pour gagner le championnat un troisième consécutif. Fait qu'il n'y avait pas tant de place pour un gars comme Vallée, mais là, il est ici. Nous, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas devenir non plus comme les expos dans le temps qui étaient comme le club école des autres clubs des majeurs. Tu sais, moi, il ne faut pas que on développe les Québécois, puis quand ça leur tente d'être des vedettes dans la ligue, faut pas que ils soient des vedettes à Québec. Faut que ce soit comme Terrien puis Pelletier puis qu'on les garde ici.
Ouais. On va terminer avec l'expérience. Faut parler d'expérience partisan. Ouais. C'est votre rôle que les gens qui se présentent au stade aient du plaisir. Vous avez travaillé fort là-dessus. Je suis allé visiter votre temple de la renommée, c'est que vous avez à l'intérieur du stade qui est ouvert les jours de match, j'imagine.
Ouais.
Si quelqu'un veut vraiment s'imprégner de tout ce qui est le baseball. Donc, vous allez plus loin que juste le match. Quelqu'un qui se présente là-bas peut aller au temple de la renommée du baseball. Merci à Bob McDuff et tout le groupe là, qui a monté ça. Donc, vous êtes organisé là, pour que la soirée soit agréable là-bas, au-delà du baseball.
C'est l'objectif. Quand on est arrivé dans la Ligue, on s'est fait, on va dire, coacher par les Capitales de Québec. Ils nous avaient expliqué que pour avoir du succès dans cette Ligue-là, parce que dans le baseball indépendant, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font les séries éliminatoires. Fait que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, si tu te fies juste ces séries éliminatoires sur le produit, sur le terrain, pour avoir du succès, ça devient dangereux. Fait qu'ils nous ont dit qu'il faut travailler l'événementiel. Fait que c'est pour ça qu'on a fait une terrasse pour des 5 à 7 avant match. On a fait dans le champ extérieur un lounge que il rentre 30 personnes, des compagnies qui viennent. C'est littéralement dans le champ gauche. Là. Et à 303 pieds, à 304 pieds. Le jeune qui a son gant peut devenir voltigeur pour l'autre club, sauf que c'est un circuit. On a fait des loges en arrière du marbre, puis il faut se rappeler que les Aigles des Capitales ont joué dans des stades vieux de 1938. Là, fait que, tu sais, c'est pas des nouveaux stades où est-ce que tu décides que tu fais des loges comme à Place Belle ou des choses comme ça. C'est de 1938. Fait qu'on a rajouté des propriétés comme ça qui ont été des succès. C'est ce qui nous permet de survivre dans le baseball indépendant avec un si petit marché. Mais tout ça, c'est pour développer l'expérience client. On met des chansonniers, des DJ sur la terrasse à 20 matchs. Tu sais, ça arrive, c'est le puriste de baseball, mettons comme Bob McDuff, qui est mon ami, lui, des fois, il trippe pas tant que ça quand je dis que moi, je m'en fous quand la personne est sur la terrasse puis que ça arrive, là, je vous le jure, en cinquième manche, je vois des femmes qui sont assises puis mettons, ils prennent leur coupe de vin puis ils regardent même pas le match. Je leur demande le score, ils ont aucune idée c'est quoi le score. Mais eux autres, ils ont une soirée incroyable.
Ouais.
Ils ont payé le billet, puis eux autres, c'est un événement qui vient. Puis qu'on gagne, qu'on perde, ça importe peu. On a des détenteurs de billets de saison que si je dis ça, là, ils se fâchent après moi parce que là, eux autres, ben, nous autres, ils suivent à chaque match qu'on est à tant de matchs des séries. Fait que, tu sais, il y a pour toutes les clientèles, mais pour que ça fonctionne, on doit faire de l'événementiel avec tout ce qui entoure le match, comme le musée, comme la terrasse avant le match, comme le lounge, comme notre implication avec le baseball mineur. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour attirer du monde puis rendre le produit, intéressant, mais il faut tout faire les petites choses à côté pour que ça fonctionne.
Au fil des années, dans l'histoire du baseball, il y a eu des promotions très imaginatives, surtout dans le baseball mineur, il faut bien le mentionner, là, au fil des années. À toi, Ruggès, si je vous demandais, est-ce qu'il y a des matchs où il n'y a pas quelque chose de spécial, ou si vous avez quelque chose vraiment là, à chacune des parties?
À chaque match, il y a quelque chose de spécial, puis au début, on n'était pas capable de faire quelque chose à chaque match, mais ça peut partir, tu sais, c'est... Puis des fois, les années qu'on s'est le plus trompé, c'est quand on a voulu réinventer la roue. Tu sais, mettons, historiquement, dans le sport, là, nous autres, mettons, à Québec, là, le Pizza Scream normandin à Trois-Rivières à Québec, nos filles d'animation se présentent dans le stade avec de la pizza, il faut que le monde fasse du bruit, puis on a un animateur de foule. Tu sais, à chaque fois, je me dis, viens, j'en reviens pas que le monde, il crie de même, ça met une ambiance incroyable. Le hot dog à une pièce, on a une journée, le hot dog, c'est comme un repas spécial du baseball, ben, à une pièce, parce que c'est une journée spéciale, ben, il y a du monde qui aime ça, cette promotion-là. Mm-hmm. Le dimanche de la famille, après chaque match, tous les jeunes, puis on a beaucoup de jeunes de Montréal qui viennent les dimanches, parce qu'à 4 heures, le match se termine, autour de 4 heures, les gars sont sur le terrain, les joueurs, puis ils signent des autographes. Fait qu'à chaque match, il y a une thématique. Les jeudi, vendredi, c'est plus festif. Parce que des rabais à la boisson, ou ce que des groupes vont là, ou des équipes de sport, de balle donnée, de deck hockey. Puis, fait qu'on s'assure que les 48 matchs, il y a quelque chose. On sait très bien qu'au début de l'année, au mois de mai, on va jouer le 21. On joue, on a toujours une bonne foule, s'il fait beau le match. Opening day, c'est une thématique en tant que telle. Le lendemain, ça tombait quasiment à zéro. Cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est un match des écoles. Fait qu'on joue à 11h le matin, puis on a déjà 1600 jeunes qui viennent avec leur école dans les estrades. Fait que, t'sais, à chaque match, puis honnêtement, c'est ça qui fait qu'à la fin, t'as d'année en année, là, de plus en plus de succès au niveau de l'assistance, puis au niveau des revenus pour l'équipe.
Donc, ça commence dans 2 semaines de la saison. Oui. Le premier match à Trois-Rivières, c'est le 20.
Oui.
Et ça se déroule tout au long de la saison, évidemment, jusqu'à la fin du mois d'août. Lundi, généralement, c'est congé. C'est la journée d'autobus, là, je pense qu'on peut dire.
Exact.
Dans le cas on voyage beaucoup du côté des Aigles. On vous souhaite, René Martin, une très, très belle saison 2025. Avec un nouveau gérant, quelques nouveaux venus, quelques Québécois qui sont là également, avec lesquels on est déjà identifiés. René Martin, merci beaucoup.
Ça fait plaisir, vous êtes bienvenu au stade cet été en passant.
Merci beaucoup, on en prend note.
C'est beau, bonjour.